Bonjour à toutes et tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast de Moodstep pour parler de management, d'intelligence collective, de savoir-être au travail. Aujourd'hui, nous allons parler de poésie. La poésie en entreprise, quelle étrange idée. Et pourtant, c'est ce que fait Vincent Avanzi, poète d'entreprise. Je vous propose de le retrouver tout de suite. C'est parti. Bonjour Vincent.
Bonjour Johanna.
Alors bienvenue sur ce podcast, nous allons parler de poésie aujourd'hui. Alors ça c'est un sujet étonnant pour l'entreprise, mais avant de nous lancer dans le sujet, est-ce que tu pourrais te présenter ?
Oui, Vincent Avanzi, j'ai 35 ans, je suis un ancien globetrotter issu d'une école de commerce, j'ai travaillé pendant 5 ans chez Microsoft, après quoi je suis parti créer deux structures dans le web en tant qu'entrepreneur, avant de repartir dans un deuxième tour du monde qui s'appelait une odyssée humaine, les 12 travaux d'Hercule, enfin des reculs de l'art de vivre ensemble, et pour trouver ma voie, et quand je suis revenu, j'ai un peu utilisé la métaphore de Steve Jobs qui dit comment est-ce qu'on peut connecter ses dons, et pour moi ça a été la réunion entre la passion pour la poésie que j'avais pour le hip-hop depuis très longtemps et pour l'écriture en règle générale et ses vertus, toutes les compétences en business que j'ai pu développer ces 10 dernières années et puis tout le travail en développement personnel que j'ai pu faire pendant mes voyages et au final je fais des conférences poétiques en entreprise notamment aujourd'hui.
Ça c'est étonnant quand même, comment ? Parce que tu as fait une grande école de commerce, c'est ça ?
Ouais.
Après tu es dans quelque chose qui est très entrepreneurial, très concret. Comment t'as fait le pas pour passer de cette vision à devenir poète d'entreprise ?
Je pense que c'est des envies essentielles de trouver un sens à ma vie, d'être utile, de trouver ma voie depuis longtemps que j'ai intrinsèquement. Mais après, ça a été par étapes en fait. Ça a été un voyage initiatique qui m'a un petit peu ouvert les yeux sur d'autres choses que juste une carrière, une voie royale comme on nous avait dicté dans notre éducation, notre jeunesse. Et puis après, c'est différentes expériences, différentes rencontres, différentes discussions qui ont fait que ça a cheminé au fur et à mesure. Et puis le fait de persévérer dans la recherche de ce rêve que j'ai depuis très longtemps d'utiliser notamment mes talents et puis surtout le message via la poésie pour répandre des bonnes vibrations en fait.
Est-ce que comme ça tout de suite il y a un de ces déclics ou une de ces prises de conscience que tu pourrais nous raconter? Voilà, parce que c'est quand même étonnant de lâcher cette barre là vu d'où tu viens pour te lancer dans quelque chose qui n'est pas évident, d'amener la poésie en entreprise, on va y venir, mais ce n'est pas évident. Est-ce que tu as eu une prise de conscience particulière ou une rencontre particulière qui t'a amené à ça ?
C'est une succession de rencontres, de questionnements, je suis parti au Guatemala pour une université spirituelle d'un mois, par exemple, où il y avait différents cours de métaphysique, de yoga, de méditation, etc. Et la dernière semaine était une retraite de jeunes où, justement, on travaillait avec les quatre éléments pour essayer de trouver notre voie, à quoi on pouvait être utile. Et en fait, ça a été un cheminement progressif. Et tu me parles de déclic, je vais te donner, en fait, la métaphore la plus puissante, je trouve, et la plus utile à notre siècle, pour moi, qui est la métaphore du colibri. C'est-à-dire, comment tu peux faire, toi, ta part de colibri? Et ça a été, en fait, le déclic, ça a été de voir comment on peut passer du stade de « j'ai envie de sauver le monde, j'ai envie de changer le monde » à « ok, comment est-ce que je peux faire pour contribuer à mon échelle à une évolution positive vers un monde meilleur ?» Et ça a été ça, en fait, ce truc-là où je me suis dit « ok, à partir de là, qu'est-ce que je peux mettre en exergue, moi, comme talent que j'ai, que je peux développer pour être utile à mon échelle, entre guillemets ?» Et donc, ça a été ça, progressivement, le cheminement psychologique et spirituel, entre guillemets, pour arriver vers, justement, la fusion un peu de tout ce que je suis, tous mes savoir-être et mes savoir-faire, pour trouver une voie qui, d'une part, n'existe pas, et puis, d'autre part, qui peut contribuer à, là en l'occurrence, ramener des ondes plus humaines dans un monde capitaliste d'entreprise.
Avant d'enchaîner, je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse l'histoire du colibri. Est-ce que tu pourrais la rappeler ?
Oui, ça a été répandu par Pierre Rabhi, parce qu'à la base c'est une légende amérindienne, mais avec son association Les Colibris, et en fait c'est la métaphore, c'est en gros, la légende veut que Un jour, il y a un feu de forêt et il y a un petit colibri qui est avec d'autres petits colibris amis et dont un qui essaye de éteindre le feu, mais en remplissant son mini bec avec une goutte et d'aller en fait éteindre le feu goutte par goutte. Et donc il le fait plusieurs fois et puis il revient dans sa petite tribu et il le regarde. Les autres colibris le regardent en disant mais comment est-ce que tu comptes arrêter le feu avec juste quelques gouttes? Tu n'y arriveras jamais. Et lui les regarde et leur dit peut-être pas, mais au moins j'aurais fait ma part. Et donc voilà. Et je trouve que c'est une très belle métaphore. Pourquoi? Parce que au moment où on essaie de tous un peu de réinventer le monde, d'écrire un nouveau narratif pour le monde de demain, ça permet d'enlever toute la pression qu'on peut avoir de passer de moi je suis un tel et je vais changer le monde. Et en fait, comment tu trouves un sentiment d'utilité, mais en même temps d'humilité. Et justement, c'est par le fait que qui que tu sois, comme il faut de toutes les dans l'arc-en-ciel de talents qu'on peut tous avoir, ben on est justement, on a tous une place dans le monde pour contribuer à l'avenir du monde de demain. Et donc, je trouve que c'est bien parce que ça t'enlève de la pression, du stress, et ben t'y vas en fait au fur et à mesure, patiemment, dans ta voie, tranquillement, quelle que soit ta posture, ton être. Et puis ton environnement et là où tu évolues.
Alors du coup, comment tu penses que la poésie peut changer le monde et surtout la poésie en entreprise? Comment tu es arrivé à la conclusion que ça pouvait vraiment contribuer et faire ta part du colibri?
Alors, c'est le but n'étant pas de changer le monde nécessairement, mais de moi, entre guillemets, de qui je suis, voilà, entre guillemets, une contribution qui peut être utile à l'avenir du monde. Mais entre guillemets, vraiment à mon échelle. Donc, je me suis donné déjà, comme parler de déclic, je sais pas si c'est quelque chose dans les trucs de stage en développement personnel que tu es amené à faire progressivement, à essayer de définir une mission de vie. Un sens, une raison d'être à ta vie, entre guillemets, quelque chose que tu voudrais réaliser dans ta vie qui t'est cher, voire essentiel. Et moi, en fait, je me suis donné comme mission de vie de repoétiser la société. Au sens large du terme, c'est-à-dire remettre un peu de poésie, d'esthétisme, de couleurs humaines et humanistes au sein de notre monde à travers le fait de distiller des messages positifs, humanistes dans la poésie. Et dans cette repoétisation de la société, il y a la partie entreprise où là, en fait, la poésie peut être utilisée pour humaniser le monde de l'entreprise. Et donc, ça prend différentes formes, mais en gros, voilà, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser les lettres et puis l'être écrit dans les deux sens du terme, c'est-à-dire soi, pour justement à la fois éveiller les talents créatifs, travailler sur l'intelligence collective, et puis pas juste être dans le faire, mais aussi dans l'être, et puis pas que dans l'action, mais aussi dans le rêve de l'idéal, pour ensuite aller vers notre but, qui est un peu l'horizon commun qu'on a tous et qu'on partage tous au final, parce que le dénominateur commun de l'être humain, ça reste notamment le rêve d'horizon qu'on a pour un monde meilleur, entre guillemets. Après, ce qui va différencier, entre guillemets, les individus et les organisations, ça va être comment on y va. Mais en tout cas, on a cette projection potentielle commune dans l'avenir. Et donc en fait le but c'est de se reconnecter à cette projection-là pour pas perdre de vue entre guillemets l'utilité de ce qu'on fait. Et c'est ça qu'on va faire dans la poésie parce que je propose des voyages poétiques participatifs où les collaborateurs, les entrepreneurs, les dirigeants sont amenés eux-mêmes à écrire un poème sur un thème qu'on définit et qui est en règle générale sur le sens de leur mission, sur les visions d'avenir, sur les valeurs de l'entreprise, sur la cohésion d'équipe ou comment travailler ensemble. Et justement pour se poser des bonnes questions qui sont un peu essentielles et parfois mises au second plan dans une entreprise qui est drivée par d'autres indicateurs, entre guillemets.
Bon, j'entends que par ce travail, on se reconnecte au sens de ce qu'on fait et tu parles d'intelligence collective. Comment, par la poésie, tu fais travailler les gens ensemble sur des poèmes? Quelle forme ça prend?
Alors, trois formes en gros. La première, c'est un voyage poétique participatif où en fait chacun écrit un poème et ensuite le récite à haute voix devant l'assemblée qui est présente. Donc on va dire qu'il y a dans la salle, on va dire 30 managers ou 100 managers qui sont là, que ce soit en France ou à l'international, peu importe. Et en fait, ils sont regroupés là dans un séminaire de team building, une convention annuelle ou un événement. Et en fait, là, après que moi, en fait, je distille des slides sur l'éveil de la créativité, sur comment on pense penser différemment. Je l'ai fait embarquer progressivement dans ce voyage poétique avec une première connexion à soi, c'est-à-dire je l'ai fait se lever pour qu'il fasse des exercices d'énergétisation physique et qu'il soit bien connecté déjà à eux-mêmes. C'est la première étape, se connecter à soi et ensuite se connecter à son imaginaire pour devenir un peu visionnaire et se projeter dans l'avenir. Ensuite, tout le monde prend une vingtaine de minutes de manière introspective pour écrire ce texte poétique qui est une poésie libre, donc on ne rentre pas dans les questions de vers, de métaphores ou autres, etc. Et ensuite, il y a le partage où en fait tout le monde passe sur scène pour déclamer la poésie qu'il ou elle vient d'écrire. Et en fait, le côté intelligence collective intervient à deux moments. Le premier, c'est pendant la restitution collective où en fait on se rend compte au fur et à mesure de la récitation poétique de chacune des personnes de l'infinie créativité de tout le monde. Et en fait, que chacun peut trouver sa propre zone de talent, son propre jeu, et qu'il soit singulier, reconnu, assumé, et pouvant être utilisé en fait pour l'avenir collectif de l'entreprise qui est le nous. Donc ça c'est le premier point, c'est de se rendre compte en fait que bah effectivement on a tous des talents, tous les poèmes qui vont être lus sont tous très différents parce qu'on est tous singuliers en tant qu'être humain, et ça met en exergue, et donc en fait que bah chacun peut être respecté par sa propre singularité. L'autre côté de cohésion d'équipe, c'est effectivement quand les poèmes ne sont pas écrits en solo, mais des fois on fait écrire des pièces poétiques collectives où les gens se regroupent par groupe de 4 personnes et co-écrivent un poème ensemble avant de le réciter devant l'assemblée. Donc en fait, il y a ces deux formats-là en fait, qui sont utilisés pour la cohésion d'équipe.
T'as dit le mot « assumer ». Déjà, je pense qu'on a des croyances sur ce qu'on est capable de faire. Je veux dire, il doit y avoir une crainte quand même par rapport au fait d'écrire un poème. Est-ce que tout le monde assume ? Est-ce que tu vois des phénomènes de rejet?
Je vois des phénomènes de scepticisme au début de la conférence, c'est-à-dire, de la poésie, moi j'en ai jamais écrit, etc., qu'est-ce qu'on va faire, c'est un atelier d'écriture, et en fait, au fur et à mesure que je les embarque, moi, dans ce voyage-là, c'est en créant une ambiance de bienveillance et d'authenticité, les gens, en fait, lâchent un peu prise, et puis, et au fur et à mesure, en fait, on se rend compte que déjà, en fait, je leur pose la question, c'est qui est-ce qui a écrit un poème dans les 5, 10, 20 dernières années? Et la grande majorité des réponses, c'est personne. Donc en fait, tout le monde est à la même enseigne. Donc en fait, on n'est pas là entre poète et moi, je suis pas poète. C'est personne n'est entre guillemets un poète initialement dans sa pratique, mais potentiellement intrinsèquement. Et donc à partir de là, tout le monde est à la même enseigne. Et puis tout le monde se lance dedans. Tout le monde écrit des vers. Et puis après, tout le monde réalise que effectivement, bah chacun des poèmes, y compris le sien, est super beau et bien accueilli, parce qu'au final moi je suis convaincu qu'il n'y a rien de plus beau que quelqu'un qui est en accord avec ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, ce qui veut dire que quand une personne va sur scène et nous lit une partie de sa vérité, une partie de révélation de ses propres rêves, c'est hyper beau à voir en fait, puisqu'il n'y a rien de plus beau que ça, que sentir une personne vibrer. C'est à dire que toi Johanna, toi t'écris un poème et moi je vais sur scène le lire, ça va être sympa. Mais si toi tu l'écris et toi tu le dis, là c'est là où on sent vraiment, entre guillemets, l'être humain éclore et se révéler et s'assumer. Et c'est pour ça que si on travaille aussi sur la partie leadership, sur le fait de devenir un leader inspirant aussi grâce à ça, c'est-à-dire assumer sa part de créativité, sa part de différence, pour voir comment on peut inspirer de manière un peu humaine, en plus en révélant une transparence sur l'avenir vers lequel on souhaite aller pour son équipe, via justement ce rêve poétique. Et puis donc c'est des moments qui sont hyper beaux, très humains et qui sont vraies bouffées d'air en fait pour les entreprises, et qui sont en fait le format de conférence qui c'est à la fois le côté inspirationnel et le côté expérientiel, où en fait tu vas avoir aussi un déclic, c'est-à-dire le déclic de ok, je suis passé sur scène, c'était génial, donc en fait demain je peux me permettre dans une réunion de proposer une idée créative ou novatrice parce que je sais que ça va être bien accueilli comme ça l'était là quand je viens de faire un pitch poétique créatif entre guillemets devant toute mon équipe.
Ouais, parce que je le vois moi avec ce que je fais, la question qui revient systématiquement c'est oui, concrètement avec quoi les gens vont repartir quoi, c'est-à-dire comment ils vont pouvoir utiliser ce qu'ils ont fait avec toi demain dans leur activité.
Déjà, en fait, quand on regarde en fait dans l'étymologie du mot poésie, en grec ancien, ça veut dire créer et faire. Donc, en fait, le poète, c'est pas juste un rêveur, c'est un rêveur et un acteur, c'est un créateur de nouveaux mondes. Donc, c'est quelqu'un qui participe, entre guillemets, à la vie de la cité, à l'évolution de la vie de l'entreprise aussi, en tant qu'acteur du changement ou autre. Donc, il y a une vraie place, en fait, qu'il peut avoir. Et après, une fois que t'es embarqué dans cette aventure-là, après, une des choses que de jouer ce rôle de poète en entreprise, chacun l'est. Moi, je remets un diplôme de poète en entreprise à la fin, et souvent les poèmes qui sont écrits, les gens, comme ils l'ont écrit dans une bonne vibe positive, dans une bonne vibration, ensuite ils le prennent et ils l'accrochent en fait dans leur bureau, ou d'ailleurs en fait dans un séminaire de team building, en général on compile tous les poèmes et ensuite on les envoie en interne, parce que c'était un très beau moment partagé où chacun a fait éclore une partie de ses talents, et puis après c'est des choses qu'on peut garder, et puis aussi plein de slogans en fait, toutes les citations qu'on utilise pour se lever de bonne heure entre guillemets aujourd'hui, où on fait appel à des entrepreneurs à succès ou des sages etc. sur des citations, tout ça c'est de la poésie. Donc en fait on peut créer nos propres slogans qui vont être utiles en fait après pour l'entreprise, et c'est les deux autres services que je propose, moi, en termes de poésie d'entreprise. La deuxième, c'est faire des présentations poétiques, des synthèses poétiques d'événements, dont notamment avec Happy Lab l'année dernière. Et où en fait, ça va être pendant un séminaire, ça va être une retranscription en live de tous les messages clés qui auront été véhiculés, et pour donner un côté clôture inspirante à la fin d'un séminaire, ou l'introduire par ce biais. Et le troisième, ça va être travailler sur l'identité poétique des marques, donc aller travailler sur faire un audit de l'ADN, de l'histoire de l'entreprise, et voir en fait comment on peut poétiser l'éditorial, créer un nouveau narratif, parce que comme toutes les boîtes ont une identité sonore ou visuelle, elles peuvent aussi avoir une identité poétique. Et justement, entre guillemets, à la croisée des mondes dans lesquels on est, sur la réinvention du monde de demain, sur l'invention du monde de demain, ça va être justement ça, ça va être quelle est la capacité de chacune des entités à créer un narratif inspirant pour ses collaborateurs et ses clients, usagers ou patients ou autres.
Moi, je suis éprise d'autonomie et je me demandais comment, si on sort de ce que tu fais avec les entreprises, comment un manager peut aujourd'hui utiliser la poésie avec ses équipes? Est-ce qu'il peut le faire en toute autonomie?
C'est-à-dire.
C'est-à-dire sans faire appel à tes services. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un manager pour poétiser son activité?
Bah déjà en fait d'essayer de voir comment utiliser les citations inspirantes. C'est-à-dire en fait par exemple avant chaque réunion, d'essayer de regarder sur internet, de trouver des citations du passé sur tel ou tel sujet. Si par exemple sur tel axe de développement, sur la créativité, sur leadership, sur tel sujet qui est en cours, sur la transformation digitale, voir en fait des citations inspirantes, donc poétiques, sur la transformation par exemple, et les utiliser régulièrement, c'est-à-dire poétiser un peu soit ces slides, soit ces soit ces réunions. Et utiliser donc en fait des citations inspirantes juste telles quelles. Et puis après, si le ou le manager se sent l'envie d'écrire un poème pour se tester, pour voir en fait ce qu'il est capable de faire, et puis même de juste l'envie d'écrire un texte assez poétique, libre, avec des vers, des rimes, des métaphores, mais pas obligatoirement, juste en fait ce que cela l'inspire sur tel sujet à venir, pour justement écrire un poème de remerciement, de gratitude à son équipe pour le chemin parcouru ensemble, bah, d'écrire un poème, de l'envoyer par mail ou de le lire dans une des réunions, par exemple.
Ah oui, et tu penses que sorti du cadre, par exemple, d'avoir un animateur qui pose un peu les choses, on risque pas de se retrouver dans une situation un peu étrange. Je sais pas comment.
Bah après, ça dépend de ton ouverture d'esprit ou de comment c'est fait aussi. C'est-à-dire que, tu sais, aujourd'hui, en 2016, il y a quelque chose qui est très en vogue, c'est le mariage de l'art et de l'entreprise. Donc ça va du théâtre, du clown, de la chorégraphie, d'autres choses, en fait, qui vont aller chercher un petit peu le côté créatif humain pour être un propre artiste de sa vie, de son entreprise, etc. Donc c'est quelque chose qui rentre dans les mœurs de toute façon, comme la méditation aussi. Donc c'est des choses, entre guillemets, qui rentrent par par inception progressive. Après, il y a utiliser une citation inspirante de l'histoire pour poétiser un de ses slides, ça n'a rien de, oui, d'exubérant. Après, tu sais, aussi pour te dire en fait quelques retours que j'ai moi des sessions que j'organise, des fois en fait j'ai le manager d'un par exemple, je suis un manager chez Chanel qui où je suis intervenu pendant une journée, où après le manager a envoyé à son équipe de 80 personnes un mail de remerciement pour le séminaire sous forme de poésie, par exemple.
Ouais.
Tu vois, et c'est après, ça, ils ont été, en entre guillemets, ils ont été nourris de poésie pendant une journée, donc il y a un contexte, mais pourquoi pas ? Dire la poésie, c'est pas juste du Cyrano de Bergerac sur l'amour en dessous d'un balcon pour dire des choses entre guillemets qu'on peut considérer dans un contexte français de naïf entre guillemets. Là, on va aller chercher la poésie a cette vertu-là d'aller se connecter à l'idéal, à des rêves un peu imaginaires, utopiques, à aller regarder en fait révéler un peu la beauté esthétique qu'on a dans la langue. Et donc en fait, juste utiliser des bons mots, les mots justes et juxtaposer ensemble pour faire, par exemple, si je te donne une citation, Napoléon Hill qui dit « Un rêve est un but avec un délai » sur le rôle du rêve, mm-hmm. C'est quelque chose de très réaliste, entre guillemets, tu vois, un but est un rêve avec un délai, c'est 6 mots, 3 mots clés en fait, mais qui veulent dire énormément de choses.
Donc tu par ton travail, tu éveilles la créativité. Tu utilises uniquement la poésie. Quelle est la clé de l'ouverture de cette porte de la créativité que tellement de personnes cherchent ?
Alors il y a plusieurs techniques de créativité. Moi j'en expose en règle générale 12 avant de justement d'embarquer dans ce voyage poétique, justement pour penser à l'extérieur de la boîte. Mais le premier, ça va être déjà de jamais commencer sur une feuille blanche. C'est pareil, de la même façon de pas se mettre la pression, de pas avoir le stress, de la hantise de la page blanche. Donc vraiment en fait fonctionner par inspiration. Donc ça vient au moment où ça arrive. Et ensuite de regarder le processus très intéressant de l'inspiration en tant que telle. L'inspiration, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui se commande. C'est quelque chose qui vient une fois qu'on est prêt à le recevoir, parce qu'on a eu suffisamment d'informations sur le sujet, parce qu'on est allé voir des experts, lire des livres sur tel sujet, aller à des conférences, discuter avec des personnes, etc. Où en fait, on va être capable de faire une synthèse de tout cela pour créer sa propre idée en faisant une synthèse singulière à partir de qui on est pour trouver une nouvelle idée sur un domaine. Et en fait, donc c'est comme ça, il faut vraiment apprivoiser le process de l'inspiration. Et puis après, une autre chose aussi que j'utilise beaucoup, moi, c'est la projection dans l'avenir. C'est-à-dire faire des rêves éveillés intentionnels en visualisant une situation du futur où on veut aller. Et en fait, quand on se projette dans l'avenir, c'est là où on va justement voir des évolutions possibles à des axes de développement qu'on pourrait avoir, des innovations en se mettant dans un cadre, par exemple, dans plus 3 ans, plus 10 ans, où effectivement, on va avoir ce côté un peu visionnaire. Et c'est ce que utilise, j'ai publié un article dans les Échos qui s'appelle les entrepreneurs sont aussi des poètes visionnaires, et on utilisait l'exemple d'Elon Musk. Elon Musk qui est un visionnaire sur Tesla, l'Hyperloop, le SpaceX aux États-Unis, où en fait lui il est vraiment dans un horizon de 2100. Et je dis pas que tout ce qu'il fait c'est bien, mais je veux dire dans l'approche de vision d'avenir, effectivement c'est la projection dans l'avenir qui éveille la créativité aussi. Au-delà d'une des choses très 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 pour le coup basique mais essentielle, qui est la pratique d'un art régulier quel qu'il soit, hein, parce que là on se parle de l'art poétique, qui est un des arts qui est le plus entre guillemets le plus un art qui est accessible à tous, qui est assez facile aussi d'utilisation, parce que c'est un art lettré, donc c'est assez utile pour formaliser une nouvelle stratégie, une nouvelle vision, en plus en mots. Mais après, ça peut être tout type d'art, parce que dans l'essence même de l'art, il y a le côté d'être créatif, en fait. Voilà. D'enlever ce côté un petit peu has-been de la perception qu'on peut avoir de la poésie, parce qu'on est à peu près tous rentrés dedans dans le collège à travers des poésies un peu non contemporaines, décorrélées de nos réalités, sur lesquelles on devait faire un commentaire composé obligatoire. et ce qui est en fait une entrée en matière dans la poésie qui est entre guillemets la pire pour te donner envie de découvrir entre guillemets l'essence, les vertus que ça peut avoir de l'écriture et puis de se projeter un petit peu dans ses rêves. Et donc en fait, si on jette un regard neutre sur la poésie, on se dit ok, je repars à zéro dessus, qu'est-ce que ça peut me faire de justement prendre une feuille de papier puis de commencer à écrire des vers dessus, qu'est-ce que ça peut faire rejaillir et qu'est-ce qu'on peut écrire. Et c'est pour bah, justement s'adonner à ce plaisir de l'écriture et puis de l'expression de soi.
Ouais, c'est comme quand on est petit et qu'on a mangé de l'artichaut qu'on n'a pas aimé, puis qu'on n'en remange pas toute sa vie. S'autoriser
Exactement.
à retenter adulte pour se rendre compte que c'est très bon.
C'est ça.
Non, c'est parce
Tout
que
à fait.
j'en ai
C'est
mangé hier. C'est pour ça
vrai. D'accord.
que. Ok, bah merci beaucoup. Je te propose de passer au questionnaire qui est commun à toutes les interviews.
D'accord.
Avec la première question qui est: quelle est la meilleure erreur que tu aies faite dans ta carrière et quelles leçons en as-tu tirées? Et ce que j'aimerais, c'est avoir une histoire, quoi, vraiment, qu'on puisse visualiser cette merveilleuse erreur que tu aurais pu faire.
Ça a été de bah justement un peu ce que je disais tout à l'heure en fait sur passer de j'ai envie de changer le monde tout de suite, que tout arrive tout de suite de manière absolument non patiente, de vouloir aller plus vite que la musique en fait. Et au final, de se brûler un peu les ailes, de partir en une direction qui n'est pas forcément la bonne ni la sienne, et de progressivement en fait passer de j'ai envie de sauver le monde, j'ai envie de changer le monde, ah, je veux faire ma part de colibri. Et ça a été entre guillemets, moi, je fais deux tours du monde en fait, et le premier, ça a été justement plus ça a été, comment est-ce qu'on peut réinventer le monde? Et puis le deuxième, ça a été plus comment moi, à mon échelle, je peux contribuer avec une corde à mon arc-en-ciel de talent, qui est la poésie pour un monde. Donc ça a été de passer du paradigme de tout changer à changer une chose et de d'avoir la patience de comprendre que le monde avance entre guillemets peut-être lentement, trop lentement parfois pour nous, mais c'est le rythme entre guillemets de l'inertie un petit peu de 7 milliards de personnes et d'un système en place depuis longtemps. Donc c'est juste ouais, avancer tranquillement sans se prendre trop la tête et d'avancer pas à pas, vers à vers, page à page et rêve à rêve.
Donc, si j'essaye de traduire, parce que je cherche toujours des histoires concrètes, quoi. Le jeudi, j'ai fait ça, il s'est passé ceci. En fait, tu avais, avant de faire tes tours de monde et avant d'arriver à cette conclusion, tu étais frustré?
Non, pas frustré, mais c'est, tu sais, quand tous les acteurs du
En
changement
quoi,
te
où est
disent.
ton erreur, quoi?
Mon erreur, ça a été de vouloir qu'on peut chacun changer le monde à grande échelle, alors qu'en fait, et effectivement, de se mettre la pression pour y arriver,
D'accord.
alors que c'est quelque chose qu'on peut faire plus tranquillement, de manière plus zen, en trouvant une niche sur laquelle on peut être actif et utile.
D'accord. Deuxième question. Y a-t-il une technique ou un outil qui t'a fait avancer personnellement ou professionnellement que tu pourrais partager maintenant?
Bah de la même façon, ça a été comment tu peux te perdre pour te retrouver, explorer différentes voies pour trouver la tienne. Et ça a été si une technique que je peux te donner là pour essayer de trouver un peu sa voie, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais moi c'est ce que j'ai utilisé principalement, ça a été le côté connecter ses dons. C'est-à-dire faire un bilan de ses compétences ou de ses savoir-être, un bilan de soi, et puis de voir en fait si je fais la somme de qui je suis. Comment est-ce que je peux l'utiliser et puis mettre à mettre
Comment
au
est-ce que tu
mais
fais un bilan de toi? Avec qui? Avec quelle
bah
méthode?
si tu prends par exemple trois colonnes sur lesquelles tu vas faire quels sont mes savoir-faire, mes compétences,
Ouais.
quels sont mes savoir-être, mes qualités,
Ouais.
mes talents et puis quelles sont mes envies aussi. Et en fait, quand tu fais les trois, bah tu vois en fait sur lesquels où est-ce que ça fit, où est-ce que tu as un point de jonction entre les trois et où et de quelle manière tu peux mettre entre guillemets tout ton moi au service de ta voix et donc de quelque chose que tu as envie de réaliser.
D'accord, merci.
Tu vois, c'est comme moi, je suis plus légitime à faire de la poésie d'entreprise et venant du monde à la fois poétique et de l'entreprise que faire faire du coloriage pour
De
l'entreprise. Non, mais
l'art
tu vois,
thérapie ou de... Ouais.
exactement. Enfin, tu vois, c'est juste en fait regarder qui tu es et partir de vraiment qui tu es pour mettre toutes tes expériences de vie et puis tous tes souhaits dans une direction.
Oui, en
Dans...
opposition avec observer un marché, se dire voilà quel est le besoin, je vais remplir le besoin même si ça ne te correspond pas. C'est ça que tu veux dire?
Exactement,
D'accord.
exactement.
Troisième question. Quelle est selon toi la qualité primordiale à développer pour être un bon manager?
L'empathie. L'empathie, la compassion, la compréhension de l'être humain, l'écoute, et puis le, ouais, vraiment la compréhension de l'être humain en fait que tu as en face en fait. C'est-à-dire comprendre quels vont être les leviers d'inspiration, de motivation, et se mettre à la place de la personne. Pas juste être en mode top-down, mais se mettre dans la peau de la personne pour justement après être en mesure d'inspirer toute l'équipe dans une aventure collective qu'on va tracer en mettant un horizon assez lointain. Donc c'est la compassion et puis après la transparence, mais c'est plus la compassion déjà. C'est vraiment le côté très humain parce qu'en fait, pour être un bon leader, un leader c'est quelqu'un qui amène une équipe quelque part. Hein. C'est au-delà du côté managérial qui est plus le fait de gérer une équipe. Là, c'est comment est-ce qu'on va amener une équipe vers dans une direction entre guillemets plus haute ou pas, mais dans une direction pendant une certaine durée. Ça va être ça. Ouais, je pense c'est le côté compassion et puis même intuition. Tu vois, te déconnecter un petit peu juste du cérébral, se connecter à un petit peu. Moi, c'est ce que j'appelle le leader artistique. Je donne des formations aussi là-dessus. C'est comment est-ce qu'on peut devenir un leader artistique en faisant appel à tous ces leviers humains de compréhension de l'autre.
Mais tu penses que quelqu'un qui n'est pas empathique peut le devenir?
Bien sûr, bah c'est une
Comment on
question de tout.
développe, comment on développe l'empathie?
L'empathie, c'est comme si je te dis de penser différemment, de penser à l'extérieur de la boîte, de changer de perspective. C'est juste ça. C'est-à-dire au lieu de penser juste je, là, dans mon histoire, moi, je pense ça, qu'est-ce que la personne en face, dans son histoire, d'ailleurs, je la connais même pas, entre guillemets, donc je me permets même plus d'affirmer quoi que ce soit, parce que je n'en sais rien. Donc au lieu d'affirmer quelque chose sur la personne, je pose la question, et ensuite j'écoute. C'est ça la première partie de l'empathie, c'est juste de l'écoute pure, hein, sans interpréter ce que la personne va dire. Et puis c'est juste se mettre à la place de quelqu'un d'autre. C'est quelque chose qui est, entre guillemets, dans l'ADN de l'être humain, je pense. L'empathie. Mais par contre, ça se cultive.
D'accord.
Comme la créativité, où on dit que c'est un muscle, etc. C'est au fur et à mesure. Mais oui, donc clairement, bien sûr, heureusement, c'est d'ailleurs l'empathie qui, pour moi, sauvera le monde, entre guillemets. Ce côté-là compassionnel qu'on a tous. Pour la souffrance de l'autre ou pour le, la, la,
Les joies.
pour la, ouais, ou pour les joies, effectivement.
Aurais-tu un livre à conseiller à la lecture?
Alors c'est pas Le Petit Chef, mais c'est Le Petit Prince ou la petite princesse. Ouais, ça parce que toujours une bonne lecture. Sinon il y a Le Prophète aussi qui est un très bon livre. Mais au-delà de citer des livres, moi j'inviterais pour le coup en termes de livres de vie, de livres d'or qu'on peut écrire de que là pour le coup tes auditeurs parce que ça peut servir à ça que eux écrivent en fait ce livre, un livre que eux écriraient, mais pas forcément un livre en une centaine de pages, mais limite juste un petit poème, par exemple, sur leur vision du leadership et de la partager. Leur vision du monde de demain ou ce qui les inspire. Mais si on se parlait de management et de leadership, c'est quoi ma vision pour moi en fait du leadership, de leadership idéal, et puis après de voir en fait de l'utiliser comme socle vers lequel aller tendre, et puis regarder peut-être dans 6 mois, si vous l'accrochez dans un bureau, de regarder en 6 mois, bah, ok, où est-ce que je me situe par rapport à ça, par exemple. Est-ce que je suis toujours dans cette voie-là?
Et pour finir, aurais-tu une citation qui pourrait nous inspirer, sachant que tu as déjà dit que les citations étaient un outil intéressant pour s'inspirer?
Je vais t'en donner deux. La première sur la créativité, sur le côté reconnexion à l'enfance, émerveillement, etc., qui sont des mots et des concepts très puissants aussi. C'est Francine Béka qui dit qu'il n'y a pas de plus grande œuvre d'art que le cœur d'un enfant. Je trouve ça génial. Et l'autre, c'est sur le bonheur. C'était une partie d'un poème que j'avais écrit sur mon livre Sur la route de soi, qui était Le bonheur, c'est d'être en vie et d'être en voie, d'avoir envie et d'être en joie, d'être libre et d'être soi.
Eh bien, merci beaucoup, Vincent. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet, si on veut rentrer en contact avec toi?
Alors, il y a le site La Plume du Futur, qui est mon site de plateforme pour la poésie d'entreprise. Et puis après, il y a un blog qui s'appelle Une Odyssée humaine, où là, justement, il y a pas mal d'exemples de poétisation de la société, mais aussi de l'entreprise qui sont dessus. C'est aussi un blog de voyage initiatique, etc. Mais donc, Odyssée humaine et La Plume du Futur.
Un très grand merci. Je mettrai toutes ces références en description de ce podcast qu'on peut retrouver sur iTunes ou sur le blog de Moodstep. Un grand merci Vincent de nous avoir donné ton temps et je te souhaite une très belle route poétique du coup.
Merci Johanna et bon voyage à tous.
Bon, moi je cours de suite chercher un stylo, un papier pour écrire des poèmes. J'espère que vous en ferez de même. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode pour parler de management et de savoir-être. Et n'oubliez pas de vous abonner sur iTunes. Il y a un onglet, alors je vous explique parce que moi-même je ne savais pas trop où c'était. Et c'est pas si clair sur iTunes comment noter, donc mettre des étoiles et des commentaires sur le podcast. Vous allez sur donc la page de Moodstep et en fait vous arrivez sur la page détail du podcast. Et il y a un petit onglet notes et avis et un autre associé. Dans notes et avis, c'est là que vous pouvez mettre, bien sûr, 5 étoiles, le maximum. Je vous remercie de votre fidélité et j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Une bonne semaine!